Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h, l'heure de notre émission Une heure en Palestine, programmée sur Radio Galère 88.4, tous les mercredis de 18h à 19h. Vous pouvez réécouter cette émission le mardi matin à 11h. Donc, cette émission est animée par différentes associations qui soutiennent la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13, groupe local.
Je m'excuse, c'est le lundi matin à 11h.
Merci Sidi. Ok. Mais très bien, donc voilà, je m'en souviendrai pour la prochaine fois. Donc cette émission est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Donc Palestine 13, groupe local de l'AFPS, et BDS France Provence, groupe aixois de la campagne BDS France. C'est bien ça Bernard?
Oui.
Voilà, donc bon. Je suis Jean-Yves et je suis avec Bernard. Donc nous sommes les deux animateurs de l'habituelle revue de presse mensuelle. Aujourd'hui ce sera un peu différent, c'est pas tout à fait une revue de presse, on va parler d'un sujet particulier. Alors on va commencer par un petit truc audio qui me plaît particulièrement et que je ne me lasse pas d'entendre. C'est l'historien Zev Sternel qui est sur le plateau de Interdit d'interdire le 5 mars 2019, a parlé de l'évolution de l'État d'Israël.
Vous êtes citoyen israélien, Zev Sternel. Or, il y a peu, vous avez déclaré que le racisme qui sévit en Israël vous rappelait les origines, le nazisme à ses origines. Vous montriez tout à l'heure sur votre photo Marine Le Pen avec à côté d'elle Bibi Netanyahou. Est-ce qu'il y a un danger fasciste à vos yeux en Israël ?
Il n'y a pas de société qui soit immunisée contre ce danger-là. Et ça veut dire aussi les Juifs d'Israël, la société israélienne, est aussi vulnérable que n'importe quelle société occidentale autre. Le nationalisme dur, le propre de la droite aujourd'hui au pouvoir, la colonisation, le refus des droits de l'homme pour les Palestiniens, et même la loi sur la nationalité passée en Israël même il y a quelques mois, qui fait que les Palestiniens citoyens d'Israël, 20% de la population, sont des citoyens de seconde zone. Ça fait des années, si je peux qu'il me soit permis de me citer lui-même, moi-même, que je me bats contre cette idée que nous soyons, nous, immunisés, qu'on ne peut pas dire à un juif qu'il est fasciste ou nazi. Il y a même des nazis juifs. Ils sont aujourd'hui, ils font partie aujourd'hui de la coalition de M. Netanyahou. Et ce sont des hommes qui sont capables de tout. Parce qu'en plus, ils sont convaincus d'avoir le bon Dieu avec eux. Alors, ce nationalisme ethno-religieux dont j'ai parlé tout à l'heure dans le cas de l'Aroc est encore plus dur peut-être chez nous. Plus dur peut-être chez nous parce que l'idée que nous avons des droits absolus sur une terre où vit aussi un autre peuple, parce que cette terre nous a été donnée par le bon Dieu il y a 3000 ans, tout cela fait que le danger de la chute de la démocratie est aujourd'hui possible en Israël comme il est possible ailleurs.
Voilà, donc aujourd'hui, rien n'a vraiment changé, même si Netanyahou est parti. Donc la coalition en place en Israël, de toute façon, n'a aucune intention de faire la paix, entre guillemets, avec les Palestiniens. Et donc ça va continuer comme avant.
Mais ce qui est quand même nécessaire et indispensable, c'est de saluer Joseph Sternel, parce que c'est quand même comme la conscience d'Israël,
oui, hein, tout lui. À fait.
Voilà. C'est pas voilà, donc
c'est pas n'importe qui.
Oui. Voilà, c'est pas n'importe qui. Donc on peut se dire ça, que quand sa voix, alors évidemment il est mort aujourd'hui, mais ça reste quand même une voix forte, une sorte de conscience qui parle, la conscience en mots. Et je trouve que chaque fois qu'il est intervenu dans sa vie, et dans les 10 dernières années, là, c'était absolument comme ce qui vient d'être dit là.
Ouais, en fait, donc ce qu'il dit aussi, c'est qu'Israël doit faire le choix entre la démocratie et le fait d'être un État juif, comme ils ont passé, comme la loi est passée en 2018. Voilà. Donc, petite info par rapport à, à quelque chose qui s'est passé hier. Donc, mardi 5 octobre, le Sénat en France a voté à la majorité une résolution. Donc, ce n'est pas une loi, mais c'est une résolution sur l'antisémitisme qui reprend la définition de l'IHRA. C'est l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Définition qui est accompagnée d'exemples qui assimilent l'antisionisme et la remise en cause de l'apartheid israélien. Tout ça, c'est assimilé à de l'antisémitisme. Donc ceci est utilisé par l'extrême droite sioniste et ses supporters à travers le monde de façon à criminaliser le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien. Dès qu'on manifeste, on nous traite d'antisémites parce que on dénonce les crimes israéliens. Donc cette résolution a été adoptée donc hier par l'ensemble des groupes parlementaires, à l'exception des communistes et des écologistes qui ont voté contre, très bien, ou qui se sont abstenus. Bon, c'est pas très bien par contre.
Se rappeler des socialistes là, voilà.
Voilà. Donc ça n'est pas contraignant, bien sûr, d'un point de vue juridique, c'est pas une loi, sauf que elle peut servir de base à l'application de la loi et des politiques publiques dans les tâches de prévention, de pédagogie comme de répression, ainsi que l'a souligné Marlène Schiappa, ministre en charge de la citoyenneté. Donc ça avait été adopté par certaines villes, Nice, Paris en particulier, et par contre d'autres villes comme Strasbourg avaient refusé d'adopter ça. Hein. Et l'ambassade d'Israël en France s'est félicitée d'une telle prise de position.
Est-ce que c'est dans le cadre de la navette entre l'Assemblée ?
Non, c'est juste, ils ont décidé de voter une résolution. Hein. Donc il faut absolument s'élever contre ces résolutions, que ce soit dans des villes ou comme là, au Sénat. Voilà, donc les choses sont. On vit une époque formidable, comme disait l'autre. On va vous parler on va faire quelques annonces hein, que vous pouvez trouver sur le site de Palestine 13 dans l'agenda. Donc, premièrement, il y a un film qui va passer. Donc, une première séance a eu lieu la semaine dernière aux Variétés à Marseille. Il va passer donc toujours aux Variétés et aussi à Aix-en-Provence. Je ne sais pas à quel cinéma, mais c'est le film « Gaza, mon amour ».
De Tarzan et Arab Nasser, avec Salim Daou et Yam Abbas. Alors c'est un film qui est une histoire d'amour, mais qui est aussi une histoire qui a un lien avec l'Antiquité, parce que il y a un film, je ne sais pas si tu te souviens, qui s'intitulait ouais. L'Apollon de Gaza, il y a quelques années. Et donc cet Apollon de Gaza, il revient dans le circuit, parce que voilà ce qui se passe. Donc Issa et Siam, dans un lieu où rien n'est supposé possible, un camp de réfugiés, c'est le nom local et maudit pour dire ville, lieu où des gens vivent, à Gaza, en Palestine. Et un morceau d'histoire vraie, ici malicieusement adapté en allégorie, mais qui en son temps, 2013, avait fait le tour du monde, celle de l'Apollon de Gaza. Une statue antique, pêchée par hasard dans les quelques kilomètres de mer autorisée à cette bande de terre, est mystérieusement disparu à nouveau. Les deux histoires vont bien ensemble, celle d'Issa et Siam, entre le pêcheur et la couturière, et celle d'Issa et Apollon, entre l'homme et le dieu, deux histoires d'amour clandestines, sur fond d'interdits, en tout genre. Le film a tout pour en être un. Voilà, donc c'est le film « Gaza, mon amour » de Tarzan et Arab Nasser, qui est en ce moment
aux variétés
et au Renoir à Aix-en-Provence.
Donc c'est à partir de ce soir.
Hein. À partir de ce soir, je n'ai pas les horaires, mais voilà, c'est la sortie du mercredi et c'est sorti à Aix et Marseille.
Voilà. Donc ça, c'était le premier film. Ensuite, donc, on va parler d'un autre film. C'est Gaza Balle aux Pieds. Donc, une tournée en France est organisée par différentes associations, dont l'AFPS, l'UJFP et d'autres. Je ne me souviens pas de toutes. Et donc, ça parle des joueurs de football amputés de Gaza qui ont fait une tournée l'année dernière déjà en France. Et donc là, c'est un film qui a été fait pendant cette tournée par Liad Alastal, réalisateur. Et donc ça, je vais vous
donner... Oui, mais le film s'origine dans une tournée,
oui,
qui a été
fait les footballeurs. Fait
les footballeurs en 2000, ça date 2018 à Martigues.
Martigues
voilà, a été le porteur de ce projet,
oui,
en organisant une rencontre entre les footballeurs amputés parce que c'est pas en jouant au football, hein, qu'ils, oui, ont, oui, été amputés, qu'ils se sont blessés, hein. C'est quand ils participaient tous les vendredis aux marches du retour et où les snipers israéliens bien calés sur leur pas de tir les attendaient pour leur tirer des balles, comme on dit, dans le genou.
Et des balles explosives, en plus, voilà, qui obligeaient finalement à tout couper. Quoi.
Voilà. Donc, c'est à partir de là que ces jeunes, qui étaient par ailleurs footballeurs, se sont trouvés amputés. Et on connaît l'obstination de la population palestinienne de ne jamais, jamais se coucher. Donc, ces jeunes se sont dit, ben non, on sera quand même footballeurs. Donc, à Martigues a été organisée cette rencontre entre différents groupes de footballeurs amputés et une rencontre, je ne sais plus sur quel stade, si ça a eu lieu à Martigues ou à Gardanne.
Il y en a eu un à Gardanne.
À Gardanne, oui, je crois. Et donc, et voilà, alors cette rencontre a donné lieu à un film, mais également le filmage du groupe, oui, dans sa tournée en France.
Donc là, c'est une tournée avec ce film dont il est question. Donc ça va passer à Martigues. Martigues reste un des piliers dans cette opération. Hein. Donc Martigues, ça passe le vendredi, donc c'est bien vendredi, oui, 8. Et alors attendez, je vais vous dire. Voilà, donc le vendredi 8, le film Gaza Balle aux Pieds, donc le vendredi 8 octobre à 19h au cinéma Le Méliès, en fait c'est à Port-de-Bouc.
Voilà, c'est à Port-de-Bouc. Hein.
En présence du réalisateur et de deux joueurs amputés de Gaza. Donc cinéma Le Méliès, vendredi 8 octobre à 19h. Et à Marseille, donc ça sera le 9 octobre. Et le 9 octobre, c'est dans une salle de la mairie des 4e et 5e. Qui s'appelle le Hangart à Marseille. C'est au 106 bis boulevard Françoise Duparc. Vous pouvez trouver toutes ces infos dans l'agenda du site Palestine 13.
Et
donc c'est samedi 9 octobre à 17h.
Et dans les deux cas, après la projection, il y a un petit buffet.
Voilà.
Un pot de l'amitié.
Sachant que, en plus du film Gaza Balle aux Pieds, donc il y a un certain nombre de petits films qui font partie d'une série qui s'appelle ça y est, j'ai perdu le nom, en fait c'est c'est des petits films de quelques minutes qui parlent de la vie à Gaza, qui montrent que la vie à Gaza, ça n'est pas simplement des bombes qui tombent sur les gens, mais que les gens résistent, vivent, essaient de vivre normalement. Et donc c'était en fait, voilà, c'est Gaza Stories. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Gaza Stories, sur laquelle vous pouvez retrouver ce projet palestinien qui est disponible en français. En fait, l'objectif était de montrer au reste du monde la résilience des Palestiniens de Gaza et comment ils arrivent à vivre au quotidien. Il y a énormément de films, il y en a plus de 60, je crois. Donc ils ont été réalisés et diffusés via les réseaux sociaux. Autour du réalisateur, toujours Liad Alastal, il y a une équipe de cinéastes et journalistes gazaouis qui réalisent les films, les reportages, les documentaires et les informations filmées sur la vie quotidienne, les questions politiques, économiques, sociales, associatives, artistiques, culturelles. En fait, la vie, la vraie vie des gens de Gaza.
Oui, mais alors ça s'intègre totalement dans ce qu'ajoutaient les frères Nasser sur Gaza Mon Amour, parce qu'il y avait un petit problème. Il y avait une post-note où il disait que, en fait, même s'il ne montrait pas la vie à Gaza, montrer le politique à travers l'humain était leur projet. Et ils expliquent que le conflit chez eux est à la base de tous les problèmes des Gazaouis. On est tous d'accord avec ça. Et alors, ainsi, en filmant le quotidien des Gazaouis, nous filmons le conflit. Alors, ils emploient le conflit. Même si nous n'en parlons pas directement, en fait, nous filmons les effets du conflit plutôt que le conflit lui-même. On peut ainsi voir dans le film que les habitants de Gaza subissent des coupures d'électricité régulières suite au bombardement de leur centrale par Israël, qui n'a jamais été correctement réparée depuis. Et ils ajoutent, sous forme de clin d'œil, à l'ère de la technologie et d'Internet, c'est quand même un gros handicap de ne pas avoir d'électricité.
Ils arrivent à faire de l'humour quand même.
Ouais. Voilà. Liad Alastal, donc le réalisateur de tout ceci, a dit, il y a à Gaza un côté souffrance, mais il faut également se rappeler qu'il y a Gaza avec de la vie. Ce sont deux réalités. Le monde entier a une vision sombre de la Palestine. S'il voit la souffrance en Cisjordanie, celle de Gaza est décuplée. Mais il y a aussi une résistance. Exister, c'est résister, c'est ce que font les Palestiniens. Tout est acte de résistance, le quotidien comme les gestes de vie. Donc notre émission aujourd'hui va être axée sur la résistance des Palestiniens à l'oppression.
Voilà.
Voilà. Quelques autres infos là par rapport donc toujours que vous trouverez sur le site de Palestine 13 dans l'agenda. Donc la route du Zaatar démarre le 20-10, départ donc de cette route en bateau le 20 au Mussem. Le 23-10, donc il y a une manifestation et des bus qui partent d'un peu de toute la France pour aller à Lannemezan où est enfermé depuis, ça y est, j'ai oublié, depuis presque 40 ans, Georges Ibrahim Abdallah, et alors qu'il devrait être libérable depuis la fin des années 90. Donc ça, c'est le 23 octobre. Le 27 octobre, on reçoit Thomas Vescovi, qui est auteur de « L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël ». Je crois bien que ça se passe à la librairie Transit. Et le 6 novembre, Stéphanie Lat Abdallah vient parler à la librairie Maupetit, à ce moment-là, de son livre sur l'enfermement en Palestine. Les prisonniers, quels qu'ils soient. Donc, je vous l'ai dit, c'est une émission axée sur la résistance palestinienne, résistance à l'occupation, à l'oppression de l'occupant, mais aussi à la répression de l'autorité palestinienne. J'ai retrouvé une phrase qu'a prononcée Laurent Merer, qui était un amiral français. Il était allé en mission en Palestine avec une association, une ONG, et il dénonce l'horreur. En fait, avant d'y aller, il n'avait pas vraiment d'idée sur ce qui se passait là-bas. Et il dit, les Palestiniens, ce n'est ni plus ni moins un peuple Donc ce qui se passe en Palestine, ce n'est ni plus ni moins un peuple qui vole la terre d'un autre peuple et dénie son existence. Les Palestiniens sont des résistants qu'Israël fait passer pour des terroristes. Voilà. Ils ont profité du 11 septembre aussi pour en rajouter.
C'est un amiral qui a dit ça.
C'est un amiral français. Quand il était à la retraite avec sa femme, ils sont partis en Palestine avec une ONG. Et donc voilà, ils ont passé 3 mois et ils accompagnaient les enfants à l'école pour les protéger des colons, etc. Enfin, c'est,
Quoi, il suffit d'aller en Palestine pour revenir changer.
Tout à fait. Voilà.
Très bien.
En août 2021, il y a un dossier qui est paru, édité par Al-Shabaka, réseau politique palestinien et groupe de réflexion, dont la mission est d'éduquer et de favoriser le débat public sur les droits de l'homme en Palestine et l'autodétermination dans le cadre du droit international. Donc c'est un pavé assez intéressant, pas toujours facile à lire, mais voilà. Vous trouverez des références donc toujours sur le site. C'est Al-Shabaka, S-H-A-B-A-K. Alors, Bernard va nous parler de ce qui se passe avec l'autorité palestinienne. Et aujourd'hui, la Palestine gronde. En mai, donc, il y a eu des manifestations.
La suppression des élections par Mahmoud Abbas pour ce qui se passait dans les quartiers chauds de Jérusalem.
Donc ça, c'était au début de l'année, vers le mois de février.
Et puis, au mois de juin, alors ça s'est activé, ça s'est aggravé, parce que la mort de Nizar Banat, le 24 juin, après son arrestation par les services de sécurité palestiniens. Cette arrestation a suscité une vague de manifestations dans la rue palestinienne, réclamant le départ du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Ce meurtre, qui arrive après une tentative d'assassinat à laquelle Banat avait échappé quelques semaines plus tôt, a fait basculer les protestations du monde virtuel vers la rue. L'événement a été un catalyseur contre l'autorité palestinienne, mettant à nu son échec. De plus, les pratiques du gouvernement palestinien sont marquées depuis quelques années par des discours et des politiques sécuritaires dont les violences sont en contradiction flagrante avec les attentes des citoyens. En retour, les formes de résistance émanant d'une société palestinienne sous occupation ont également évolué. Les espaces sociaux palestiniens étaient jusque-là un lieu d'expression contre le colonialisme israélien. Mais le contexte des dernières années les a fait évoluer, notamment avec la division interne et la mise en place des deux autorités en conflit, l'autorité palestinienne en Cisjordanie et le Hamas dans la bande de Gaza. Depuis, ces espaces sociaux ne cessent d'être traversés par des affrontements sur des questions comme l'opposition aux négociations et à la coordination sécuritaire avec Israël. Oui, alors coordination sécuritaire avec Israël, je me tourne vers toi pour que tu apportes quelques précisions, ou tu veux que je le fasse ?
Donc, coordination sécuritaire, ça veut dire qu'en fait, l'autorité palestinienne, elle collabore tout simplement avec Israël. Israël a délégué à l'autorité palestinienne, suite aux accords d'Oslo en 93 et les années suivantes, donc la responsabilité d'empêcher toute forme d'agression contre Israël. Donc, si on ajoute à l'armée israélienne qui contrôle toute la Palestine, et si on rajoute à ça la police palestinienne, donc celle qui a assassiné, entre guillemets, je ne sais pas s'il faut mettre les guillemets d'ailleurs, Nizar Banat, voilà. Donc, les Palestiniens, ils sont pris entre deux feux. Et aujourd'hui, l'autorité palestinienne enferme tout un tas de gens qui se battent contre l'occupation.
Voilà, donc ça, c'est la coordination sécuritaire avec Israël. Mais ça n'empêche pas les arrestations politiques et les atteintes à la liberté d'expression et aux libertés publiques. Ces divergences croissantes marquent un fossé qui s'est creusé entre la politique menée par les deux pouvoirs, Ramallah et Gaza, et une partie conséquente de la société palestinienne. Cet abîme apparaît également dans les politiques visant à contenir les protestations en cherchant à les récupérer à travers l'apparition de nouvelles formes de censure afin de monopoliser ces espaces sociaux et de les occuper avec les seuls discours, des appareils de l'autorité palestinienne ou du Hamas. Ces tentatives de contrôle et de récupération s'inscrivent dans une conception officielle de ce que doit être la représentation palestinienne, imposée comme la seule voie à même de susciter une quelconque solidarité mondiale. À cela, il faut ajouter une neutralisation de la confrontation avec la politique coloniale israélienne et la réduction du combat palestinien à son aspect juridique et symbolique. Or, depuis le début de la pandémie, les scandales et les protestations contre les politiques de l'autorité palestinienne se succèdent. Pour contenir leur propagation, le gouvernement a eu recours au confinement, à un durcissement sécuritaire et à des discours moralisateurs. Mais la pandémie a mis à nu la fragilité des structures sanitaires palestiniennes. L'arrivée des doses de vaccins a été tardive et la campagne de vaccination a été entachée d'accusations de népotisme et de clientélisme. Donc là, on peut faire rapidement un petit ajout, c'est que l'autorité palestinienne fonctionne à peu près comme la plupart des régimes arabes.
Oui, c'est un régime autoritaire qui avec tout l'argent qu'ils reçoivent, parce que donc suite aux accords d'Oslo, ils reçoivent de l'argent de l'autorité de l'Europe, par exemple, les États-Unis aussi, même si Trump avait arrêté pendant un moment, et ils reçoivent donc aussi des taxes qui sont perçues par Israël. Et tout cet argent, donc, ils l'utilisent, en fait, pour faire leur propagande. Et donc, il y a des gens qui ont des postes très rémunérateurs. Et ces gens-là, parmi l'autorité palestinienne également, donc, n'ont pas envie que ça s'arrête. Hein. Je crois que quelqu'un avait dit une fois, on n'a jamais vu quelqu'un qui a des privilèges, les abandonner de lui-même. Donc voilà, ouais. la rue aujourd'hui essaie de dire. Ouais.
Mais tu crois qu'au prochain Pandora Papers, il y aura un membre de l'autorité palestinienne?
Peut-être qu'il y en a déjà.
Peut-être qu'il y en a déjà. Non, mais ça irait jusque-là.
Il y a des chances, oui.
Donc Nizar Banat avait d'ailleurs critiqué dans nombre de ses publications sur les réseaux sociaux le transfert des vaccins entre l'autorité palestinienne et Israël. Après une tentative d'assassinat à son encontre, ordre a été donné de l'arrêter. On connaît la suite. Mmh. Certes, la protestation contre les politiques de l'autorité palestinienne n'est pas nouvelle. La rue palestinienne a connu depuis 2011 des dizaines de manifestations, des enseignants, des médecins du secteur public ou des manifestations politiques. Opposition aux sanctions contre Gaza, à la coordination sécuritaire avec Israël, aux guerres contre Gaza ou opposition de l'autorité palestinienne, aux contestations sociales contre la loi de sécurité de la sécurité sociale en 2019. Il faut noter qu'au cours de ces mouvements, les manifestants se sont heurtés aux forces de sécurité de l'autorité palestinienne. Donc ça veut dire que se fait jour aujourd'hui un peu plus loin que l'espace palestinien, que les difficultés que rencontre la population ne sont pas seulement celles de l'occupation, mais s'y ajoutent celles d'un règlement, d'un fonctionnement de l'autorité palestinienne qui serait tellement supplétif presque.
Il collabore avec Israël.
Oui. Il fait que, comme tu le disais tout à l'heure, il se retrouve à chaque fois avec l'armée israélienne, voilà, et l'autorité palestinienne, enfin et sa police, mm-hmm, pour les faire rentrer dans le rang.
On pourrait comparer ça, je ne sais pas si le parallèle est intéressant, à ce qui s'est passé en France.
Pendant l'occupation.
En 1939-40, ouais. Oui, on était occupé par les Allemands et la police française, sous les ordres de Vichy, elle appliquait la politique que les Allemands lui demandaient. Mmh. Donc là, c'est pareil, c'est à travers l'autorité palestinienne et sa police, c'est quand même Israël qui donne les consignes, ce qui n'empêche pas l'armée israélienne d'intervenir où elle le veut, quand elle le veut, sans que... En fait, quand ils doivent intervenir, ils appellent, je suppose, le chef de l'autorité palestinienne, de la sécurité, qui enlève ces hommes et l'armée israélienne peut intervenir. Voilà.
C'était le seul truc assez juste que j'avais noté dans la série Faouda, que l'autorité palestinienne avait un bureau dans la ville où l'action devait se situer. Et c'était vraiment la collaboration, mais la collaboration de la collaboration.
Il recevait un coup de fil, c'est ça ?
Oui, non, il lui disait, il n'y a pas de problème, ton affaire est entendue, tu peux compter sur moi.
Ouais.
Ouais, mais ça faisait un peu comme si c'était une annexe d'un truc israélien. Il rentrait, il disait, voilà, tu sais, on a un problème, nanana. Et quand il repartait, le truc était réglé.
Le problème était réglé. Voilà. Et pour revenir sur l'histoire de l'annulation des élections, donc ça a été fait au début d'année, en fait, c'est Abbas qui était persuadé de perdre. Sauf qu'avec ce qui s'est passé au mois de mai, donc suite à l'armée voulait expulser des Palestiniens de Sheikh Jarrah, dans la banlieue de Jérusalem. Donc ça a duré pendant quelques semaines. Ensuite, ils ont évacué, l'armée israélienne a évacué l'esplanade des mosquées aussi. Et là-dessus, le Hamas a lancé des roquettes pour défendre les gens qui étaient les Palestiniens de Jérusalem, de Cisjordanie, etc. Et pour la première fois depuis très longtemps, les Palestiniens d'Israël ont manifesté aussi. Il y a eu un certain nombre de manifestations, des arrestations en pagaille, etc. Et suite à ça, donc le Hamas, on n'aura pas le temps d'en parler, mais j'ai trouvé un sondage qui a été fait dernièrement auprès de 1200 Palestiniens. En fait, ils disent, mais la résistance armée, c'est le seul truc qui peut nous sauver aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe avec l'autorité qui cherche à tout arrondir les angles, etc., et quand on voit que finalement le Hamas, il a réussi avec ses roquettes, même s'ils s'en sont pris plein la gueule, ils ont réussi à faire arrêter les expulsions à Sheikh Jarrah. Donc voilà, aujourd'hui, s'il y avait un vote pour le pouvoir, pour des élections législatives, le Hamas serait sans problème gagnant. En tout cas, Abbas, c'est un vieux kakoshi, mais je ne sais pas pourquoi il continue à le garder.
Mais bon. Oui, mais il vaudrait mieux qu'il n'y ait qu'une seule unité
d'autorité. Oui, autorité. Israël,
sinon,
la colonisation, ça a toujours été ça. On divise pour régner, un peu comme la France en Algérie. Elle avait naturalisé les Juifs, alors que les Arabes, les musulmans n'étaient pas naturalisés. Il fallait qu'ils fassent, c'était beaucoup plus compliqué. Donc on divise les gens, comme dans toute l'Afrique, la colonisation, ça s'est passé de la même façon. Alors on va passer un petit morceau de musique, un premier. Donc ça parle de résistance palestinienne. Et c'est Baladna, une association pour de jeunesse arabe, qui présente un projet de créer une musique qui apporte aux jeunes artistes palestiniens de tous les secteurs, au nom de la musique palestinienne, ignorant l'histoire et la division géographique. Donc on écoute Palestinian Résistance.
بس مع كلماتي لا ما في مثل مسيل بس جرب وتحداني او يلا قم قدامي راح اكون معك اناني بالمره ما تنساني واحد زائد واحد الكل يقول اثنين واثنين مع اثنين بكمل
الملايين حاجة في عمر صغير رح نجود الجرار ونرجع الانتصار ونكمل المصير
يا الوالد من رحم وهنا عشان فلسطيني بيقولوا شو معناه رح عرفك شو المعنى من فلسطيني ما بيرضى بالذلة والإهانة بس انت الحكم القاضي اللي بيزف الأراضي وانت كمان الجاي بيخضر واحنا بيزواني ما بعرف من وين جاني هالعدو غير إنساني بالك ومش بالك بس فلسطيني خو بالك خو بالك الكلمة الأولى انقلت التانية عنا طلعت عيون الدموع نشفت ألم بحمل الكون حلم عايش عشانه قلب لمو ممنون بيار كان عان ميزو ونار باسم البيار جينا وعدينا ولفنا بالغنينا وارواحنا إلها ضربت خبب وصابت هدف إحنا إلها
الطرف صارت أشبال بالضبطك لا ترتاح بيكون مسر صباح بيفكروا يطيرونا مثل مثل عصافير من عشوشا لما تطير ما ماكل وما مسير أنا هون دايما العسير عمصون في كل تدبير كلماتي عم بكتبها ضنهل صهيوني الخطير عم اغني رب جبار على وتر من النار كلماتي باختصار صار نزل زم وتشار عم تقطع كل حصار على شعبي فيه الدار لنا عم بدول طعمه لوني مرر من عدو حاقد وجرار للموت وللحصار بس حضرني بالمرصاد صوتي طالع زم وطار نص السما زم طاط الرسالة للدوخات يروح الاستشهاد مقابل هالبلاد مقابل هالبلاد
Oui, alors l'intervention que je viens de faire est issue d'un professeur de l'université de Birzeit qui s'appelle Abaher El-Saka. Voilà, donc c'est quand même assez fouillé. Et puis surtout, c'est de la un point de vue de terrain.
Ouais. Donc toujours dans le domaine de la résistance, il y a un point de résistance qui a une histoire particulière. En Palestine, c'est Jénine. Et donc, j'ai trouvé un article, Jénine, une histoire de résistance qu'Israël n'a jamais pu changer. En fait, ce qui s'est passé, c'est pendant le mois de septembre, donc un dimanche, il y a eu des assassinats et des massacres. Il y a quatre enfants quatre personnes qui ont été tuées à Jénine. Et en fait, c'est à la suite, donc Jénine résiste depuis les années 2000 et la première intifada, quand ils se sont battus contre la deuxième intifada, pardon, quand ils se sont battus contre l'occupation. Et donc c'était un reportage avec Yuval Abraham qui a raconté dans le magazine d'opposition israélien 972+. 972, je vous rappelle que c'est le début des chiffres, des codes barres de tout ce qui est fabriqué en Israël. Donc, dès que vous voyez 972 au début des codes barres, il faut boycotter. Hein. Petite parenthèse. Pour voyager des territoires occupés à Jérusalem ou en Israël, il faut un permis d'entrée de l'armée israélienne. Chaque jeune que j'ai rencontré à Jénine s'est vu refuser un permis, donc systématiquement. La grande majorité n'a jamais vu la mer. Elle est à même pas 50 km. Pas une seule famille dans le camp de réfugiés sans un prisonnier ou quelqu'un qui a été tué par l'armée. Et le Shin Bet refuse les permis d'entrée aux membres de ces familles en guise de punition collective, explique Al-Tubazi. Le camp de réfugiés de Jénine, en fait, il est au nord de la Cisjordanie. Et donc, quelqu'un il dit, donc, en chemin, j'ai compté 14 postes de contrôle de l'armée. chacun avec deux ou trois soldats debout qui vérifient les pièces d'identité au hasard. Et Israël interdit aux Palestiniens de traverser Jérusalem ou de paver de nouvelles routes interurbaines en Cisjordanie, faisant de chaque trajet sud-nord un cauchemar de 4 heures. Nous nous dirigeons vers le Freedom Théâtre, un théâtre et centre culturel communautaire palestinien dans le camp de réfugiés de Jénine, où Ahmad Al-Tubazi travaille en tant que directeur artistique. La mère de Merk Amis, Arna, une femme juive israélienne, a fondé ce théâtre de la liberté pendant la première intifada. Le théâtre a été fermé ensuite pendant des années et il a été rétabli en 2006 par un groupe de Palestiniens dont Zoubeidi est le fondateur. L'enfant n'a pas le choix. Depuis ma naissance, j'ai vu l'armée entrer dans le camp toutes les nuits, arrêter des gens, ouvrir le feu. Imaginez votre père en prison, votre frère martyr, la maison de votre voisin en train d'être démolie. Une armée étrangère vous contrôle, il n'y a pas d'aéroport, les frontières sont fermées. J'aimerais que les Israéliens puissent passer deux nuits dans le camp et voir ce que ça fait. De vieilles photos en noir et blanc de l'époque de la première intifada sont accrochées au mur du théâtre. Sur l'une, on voit un groupe d'enfants sauter sur une scène. L'un est déguisé en tigre, l'autre en coq. Zakaria Zoubedi, qui avait 12 ans au moment où la photo a été prise, est également là. 7 des 8 enfants de la troupe de théâtre sont morts. Ils ont été tués par l'armée israélienne. Tout le monde, sauf Zakaria, a été tué pendant la deuxième intifada. Donc l'autorité, il dit ensuite, l'autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas a également commencé à détenir des résidents du camp. Donc on revient sur ce que tu disais, Bernard. Pendant ce temps, les politiques israéliennes d'occupation militaire et de dépossession n'ont fait que s'intensifier. Et depuis mai dernier, des jeunes armées ont commencé à affronter les soldats israéliens qui entrent dans le camp pour procéder à des arrestations presque chaque nuit. Donc on constate que la résistance armée commence. Et en août, 5 résidents du camp ont été tués lors d'affrontements avec l'armée. 15 résidents ont été tués depuis le début de l'année. L'oppression ne conduit au silence que pendant une courte période. Voilà donc sur Jénine. Il y a un autre article aussi de Ramzi Baroud qui s'intitule 100% résistance à Jénine. Donc Jénine qui reste, je rappelle, le centre de la résistance à l'occupation. Donc les 4 Palestiniens, Saleh Mohamed Amar, Raed Ziad Abou Seif, Nour Jarar et Amjad Husseinia, étaient des nouveau-nés ou des nourrissons lorsque l'armée israélienne a envahi Jénine en avril 2002. L'objectif était de donner une leçon à Jénine et à toute la Cisjordanie. Des centaines de combattants ont été tués et blessés, donc c'est toujours en 2002. Des centaines d'autres arrêtés, de nombreuses maisons étaient détruites. Même des sympathisants avec la lutte palestinienne ont sous-estimé la capacité de Jénine à faire renaître sa résistance dans des circonstances apparemment impossibles. La tentative israélienne de nettoyage ethnique du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, donc ça c'était au mois de mai cette année, la guerre qui s'en est suivie contre Gaza et le soulèvement unitaire sans précédent rapprochant tous les Palestiniens, donc on a parlé des Palestiniens d'Israël aussi, a relevé Jénine et d'autres régions palestiniennes de leur état d'abattement. La forte résistance de Gaza en particulier a eu un impact divers sur les divers groupes combattants de Cisjordanie qui étaient plutôt dispersés ou marginalisés. Donc l'article complet traduit par traduction SF, je ne sais pas ce que c'est, vous le trouverez sur le site de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix. Et Ramzi Baroud est journaliste et rédacteur en chef de The Palestine Chronicle. Donc ces articles sont toujours très intéressants. On va passer une deuxième petite chanson, Naï Barghouti, donc compositrice et joueuse de Ney, qui reste fermement enracinée dans le système et la musique du modal arabe. Et donc dans cette musique, elle dit « Si Jérusalem demande après ses enfants, dis-lui qu'ils sont à Sheikh Jarrah. »
سألت القدس على ولادها قولوا لها ولادك بالشيخ جراح وإن سألت غزة على نهارها قولوا لها ما ضل إلا النزاح إن سألت القدس على ولادها قولوا لها ولادك بالشيخ جراح إن سألت غزة على نهارها قولوا لها ما ضل إلا النزاح عينين لا تنامي يما ولادك فايقين القلوب مفتوحة وبتضيل عينين لا تنامي يما ولادك فايقين بقلوب مفتوحة وبتضيل عينين لا تخافي يما ولادك ترجعين حنين اسرار وحب حنين عزيمة قلب حنين اسرار وحب حنين عزيمة قلب وبلد وبنت وولد حنين جوري وريحان عدكوك كله يا سنين فرحة وطرحة ضيل عينين لا تخافي يما ولادك رجعين رجعين نعمر البلاد رجعين نفتح البواب رجعين نعمر البلاد رجعين نفتح البواب نزرع نبني ونغني حيفا بعكا ولد وبلاد نسيافة وجنين
Donc Bernard, tu vas nous parler de cuillère.
Voilà, alors vous vous souvenez, il n'y a pas eu de grosses informations chez nous de ça, mais il y a quand même eu quelques petits moments qui ont fuité. À savoir que 6 Palestiniens se sont évadés d'une prison. Et,
de haute sécurité.
De haute sécurité, mais on s'est rendu compte qu'ils avaient creusé un tunnel avec une cuillère chacun. Avec sa cuillère, ils ont creusé ce tunnel et c'est par ce tunnel qu'ils se sont évadés. Donc, après, évidemment, ils ont été rattrapés, ils ont été réincarcérés. Mais voilà, ce qui s'est amplifié, c'est que au-delà, alors ce texte est un texte de Jean-Pierre Filiou, qui est un journaliste français, un écrivain, et c'est paru dans Le Monde. Alors, il essaie de revenir sur la question de la cuillère. en rappelant que la traque a tenu en haleine les opinions israéliennes et palestiniennes. Elle s'achève par une forme de restauration du statu quo, les détenus réintégrant leur lieu d'incarcération, tandis que des militants dénoncent les traitements qui leur sont infligés et se mobilisent en solidarité avec eux. Mais au-delà du sort de Zoubeïdi et de ses camarades, c'est la cuillère, instrument d'une aussi improbable évasion, qui se retrouve désormais exaltée dans les rassemblements palestiniens. Sa simplicité, sa fragilité deviennent emblématiques d'un rapport de force qui, tout en demeurant écrasant en faveur d'Israël, n'exclut pas une résistance du pauvre menée avec les moyens du bord. Des artistes s'en sont déjà saisis. Le dessinateur Mohamed Sabaneh a mis la cuillère au centre de sa caricature du tunnel de la liberté. Le plasticien Khaled Jarrar expose depuis peu à Ramallah sa pelle cuillère, là aussi symbole de libération. Sabaneh et Jarrar sont deux originaires de Jenin, mais d'autres créateurs en Jordanie ou au Koweït viennent également de s'inspirer de l'emblématique cuillère. Cette popularité militante de la cuillère épouse les contours de la nouvelle vague du nationalisme palestinien qui, en mai dernier, a fait entrer en résonance les Arabes israéliens et les habitants de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. On a ainsi vu la cuillère brandie devant la mosquée d'Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam à Jérusalem, mais aussi les manifestations et les manifestants qui contestent à Ramallah la passivité et la corruption de l'autorité palestinienne, ainsi que par les jeunes de Gaza qui s'exposent de jour comme de nuit à la frontière avec Israël. Mais c'est en Israël même que la cuillère est la plus polémique. La brandir dans un rassemblement comme sur la photo ci-dessus, on ne la voit pas, excusez-nous, vaut affirmation de l'identité palestinienne, et ce en dépit de la nationalité israélienne des manifestants. Alors même qu'un parti islamiste a accepté pour la première fois dans l'histoire d'Israël de soutenir le gouvernement en place, un tel geste est d'autant plus fort que, comme le souligne le correspondant du Monde à Jérusalem, nombreux sont les Palestiniens de Cisjordanie à accuser certains Arabes israéliens d'avoir facilité la capture des évadés. C'est-à-dire que,
une petite remarque par rapport à ce que dit Fidu, justement. Bon, c'est son vocabulaire que tu retranscris là.
Oui.
Par contre, aujourd'hui, les Arabes israéliens ne veulent plus qu'on les appelle ainsi.
Ils veulent que Palestiniens, bien
ce
sûr.
Ce sont des Palestiniens
bien sûr.
D'Israël.
J'ai entendu ça. Voilà. Mais Filiou, il reste sur l'ancienne appellation, les Arabes d'Israël.
Voilà.
Ce qui convenait beaucoup mieux à Israël. Oui. Alors, c'est ainsi que la modeste cuillère en apprend beaucoup sur les recompositions en cours de la scène palestinienne. Elle est cependant aussi le symptôme d'une crise profonde de la représentation palestinienne sur le fond de discrédit des différentes directions politiques, aussi bien à Ramallah qu'à Gaza. C'est ce vide à la tête du mouvement palestinien qui conduit à l'exaltation de figures jusque-là anonymes. Hier, des jumeaux pacifistes de Jérusalem-Est, aujourd'hui des détenus dont le passé est pourtant lourd de violence. Alors là, c'est toujours Filiou qui parle. Hein, parce que...
Non, mais violence, mais après, la violence, oui, peut-être, mais bon, c'était aussi de la résistance.
Hein, non, mais est-ce que Filiou, quand ça se passait pendant l'occupation allemande, il aurait dit ça, tu vois.
Oui.
Voilà. Dans le même ordre d'idées, la cuillère n'est au fond que le symbole par défaut d'une mobilisation nationaliste privée de toute perspective à court terme. Là-dessus, on est d'accord. Certes, elle résume de manière saisissante la détermination à se saisir des opportunités les plus modestes pour dénoncer l'injustice au quotidien. Mais instrument du faible, elle ne sert qu'à creuser, afin d'arracher quelques brefs moments de liberté, avant de retourner à la place assignée par le plus fort, toujours aussi fort. Mais voilà, quand même, c'est très, très satisfaisant dans cette catastrophe quotidienne que vivent les Palestiniens de voir qu'ils arrivent quand même à se saisir d'un truc comme ça, d'en faire un moment de joie,
ouais.
de brandir une cuillère et de dire « ça y est, on est là ».
Donc, dans le même ordre d'idées, j'ai trouvé un article dans Middle East Eye qui dit « Mèmes, blagues et icônes, 8 formes de résistance palestinienne sur Internet ». Alors bon, il a fallu quand même que j'aille voir ce que c'était un mème. Un mème, au sens général, est un élément culturel ou comportemental qui se transmet d'un individu à l'autre par imitation, détournement et par d'autres moyens non génétiques. Voilà, hein. Si vous avez compris, c'est bien. En fait, c'est des nouveaux symboles qui apparaissent quotidiennement sur les réseaux sociaux pour s'adapter à l'évolution de la réalité sur le terrain. Et certains circulent quelques jours, d'autres perdureront. Et les Palestiniens, s'ils s'inspirent de la résistance passée pour y puiser force et idées créatives, donc en les recensant, témoignent de ce moment de l'histoire qu'ils veulent en fait garder en eux. Alors un de ces mèmes, c'était le drapeau palestinien qui brandissait partout. Aujourd'hui, l'utilisation du drapeau palestinien en Israël, en tout cas, elle est interdite. Et donc, il faut faire attention aussi par rapport au drapeau palestinien, que sa banalisation ne fasse pas oublier sa signification. Quand on voit des jeunes qui se font photographier avec le drapeau, bon, si c'est juste pour comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose.
Oui, mais Filou, il dit qu'il y a le kéfier, il y a l'olivier et le drapeau.
Voilà.
Alors, c'est vrai que un film qui s'appelle Le char et l'olivier, on peut se dire le char, c'est Israël, et l'olivier, c'est la Palestine, à tous les coups. Donc, tu vois, chaque fois, il peut y avoir une réminiscence de symboles. Le kéfier, il n'y a pas besoin. Depuis qu'Arafat est intervenu aux Nations Unies avec son kéfier, on a tous compris que c'était un des symboles forts.
Alors, donc, voilà, le drapeau palestinien, il a été remplacé par la pastèque. Pourquoi ? Parce que la pastèque, en fait, comporte les couleurs du drapeau palestinien, rouge, noir, vert et blanc. Et en 2021, ont émergé des images rappelant le symbolisme du fruit. Ensuite, c'était, alors je vous cite ce qui est dit dans l'article, free parking, parking gratuit. Donc une journaliste écossaise a tweeté, mon ami juif a vu une pancarte qui disait free parking, parking gratuit. Elle a paniqué croyant avoir lu free Palestine, libérer la Palestine. Et donc à partir de ça, il y a tout un tas de gens qui ont fait des tweets. Par exemple, mon ami palestinien a vu une pancarte qui disait « Dead End », impasse, et croyait avoir lu « Sheikh Jarrah is a real estate dispute ».« Sheikh Jarrah est un litige immobilier ». Donc voilà ce que c'est même sur Internet. De la même façon, il y avait des tweets qui ont été faits, tweetés comme si la Palestine était libre. Le gars qui raconte, je suis allé à Gaza, puis ensuite à Jérusalem, et je suis allé voir mes amis en Syrie. Donc voilà, ça c'est l'humour des Palestiniens. Ils détournent aussi des images, donc de façon à faire comprendre aux gens la désinformation et par exemple l'utilisation du terme nettoyage ethnique. Il y a aussi des images emblématiques, par exemple les jumeaux Mouna et Mohamed Al-Kurd qui ont alimenté la résistance à Sheikh Jarrah, donc ont pris une image de leur père Nabil devant son mur sur lequel était écrit nous ne partirons jamais. Donc voilà, la résistance, bon, on a plein de choses à dire là-dessus, hein. On sait que les Palestiniens résistent et ne se laissent pas faire. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour l'émission suivante de Une heure en Palestine sur Radio Galère. Merci Sidi pour ta participation.
Merci Sidi, au revoir.